chers auditeurs, bonjour chers Cantariens et Cantariennes, bonjour la Méditerranée. Heureuse de vous retrouver pour ce dernier Cantara de l'année, un numéro où nous ferons un bilan un peu spécial. Nous dresserons aujourd'hui le bilan de nos ressources en eau, des ressources qui se font de plus en plus rares. Malheureusement, en 2019, ce bilan se veut encore plutôt alarmant en raison de nombreux facteurs économiques, démographiques et sociaux. C'est un défi majeur pour la population mondiale et pour son accroissement dans les prochaines décennies. Qu'en est-il en Méditerranée? Quels sont les facteurs aggravant la pénurie d'eau? Existe-t-il des axes d'évolution envisageables? Sont les questions auxquelles l'équipe de Cantara a tenté de répondre. C'est Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 qui ouvre le bal avec un point sur la situation du Liban. Ça sera avec le directeur général du ministère de l'énergie, Fadi Komer. Nous irons ensuite en Tunisie pour comprendre un peu les causes de la pénurie en eau et tenter de mettre en lumière les solutions et réponses entreprises pour faire face à cette crise. Ce sera à travers un reportage qui vous emmènera à la rencontre d'agriculteurs, de la société civile et des représentants du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Nous vous emmènerons également en Égypte, l'Égypte qui toujours fait preuve d'ouverture et de compréhension concernant les intérêts de développement de l'Éthiopie dans la construction du grand barrage de la Renaissance. Le pays conserve ses droits historiques sur le partage des eaux du Nil. La construction du barrage devrait être réalisée dans un cadre équilibré qui prenne en considération les intérêts des pays en amont comme en aval du fleuve. Dans ce contexte, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont décidé de poursuivre leurs discussions sur le barrage de la Renaissance et de trouver des solutions sur les questions controversées. Et puis nous irons au Maroc où l'irrigation traditionnelle est toujours pratiquée dans certaines régions oasiennes. L'eau est conduite vers les cultures via des serrias ou des cataras. L'irrigation traditionnelle est ancrée dans une culture de solidarité. Nadira Belkhoutout de la chaîne Inter Maroc s'est rendue à Gourama, au Moyen Atlas, où l'irrigation est transmise en héritage. Avant de lancer notre premier reportage et notre première chanson, nous rappelons, chers auditeurs, que Cantara est le fruit d'une large coopération méditerranéenne.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Extérieure d'Espagne.
C'est en musique que nous démarrons ce numéro de Cantara. Notre première chanson est signée Michael Jackson.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Thank you. écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée.
Comme chaque année, l'ONU et ses nombreux organismes établissent un rapport au sujet de la ressource en eau et son accessibilité à travers le monde. Le bilan de 2019 est alarmant. Plusieurs facteurs entraîneraient cette pénurie d'eau douce. D'une part, le facteur essentiel qui entraîne un besoin en eau toujours plus important concerne la croissance démographique mondiale qui atteindra les 8 milliards de personnes. D'autre part, en dehors des besoins en eau potable afin d'assurer une qualité de vie stable pour l'ensemble de la population mondiale, d'autres facteurs aggravent la situation. La pénurie en eau serait largement liée à l'exploitation industrielle et agricole actuelle. Il semblerait que, ensemble, ces phénomènes consomment plus de 80% des ressources en eau disponibles chaque année, sans oublier les collectivités et les grandes villes qui exploitent également une grande partie de l'eau douce disponible. Autant de facteurs qui peuvent entraîner une pénurie en eau plus rapide que prévu, en négligeant ainsi les populations souffrant d'ores et déjà d'un accès à l'eau potable très limité, voire inexistant pour plus de 840 millions de personnes. Quelle est la situation du Liban? Écoutons le directeur général du ministère de l'énergie au Liban, Fadi Komer, au micro de Nanette Ziyede de Radio Liban 96.2.
L'eau, l'or de l'avenir de la planète, qui va souffrir de pénuries un peu partout, mais plus dans certaines régions. Cette eau va-t-elle manquer au Liban? Si oui, dans quelle proportion? Et quelles sont les stratégies de prévention possibles? Le point avec le directeur du ministère de l'Énergie et président du programme hydraulique intergouvernemental auprès de l'UNESCO, Fadi Komer.
L'eau du Liban est intimement liée au climat. L'eau au Liban est devenue très rare. Elle est gaspillée en se jetant dans la mer Méditerranée à un taux à peu près de 1,2 milliard de mètres cubes par an. Et surtout quand on sait que cette eau renouvelable s'évalue sur le territoire libanais à peu près à 2,7 milliards de mètres cubes par an. Donc ces 2,7 milliards de mètres cubes seront affectés par le changement climatique. Dans le cas où nous avons un changement climatique, un réchauffement de 2 degrés, ce taux-là va passer de 2,7 milliards par an à 1,7 milliard par an. Donc l'incidence est très grave sur la sécurité alimentaire, l'irrigation, mais aussi sur l'eau potable. L'eau du Liban traverse maintenant une étape assez critique si on ne lance pas des projets de grande envergure et si la stratégie décennale et la stratégie nationale qui se base sur la gestion intégrée des ressources en eau n'est pas appliquée. Cette gestion intégrée de ressources en eau comporte deux composantes. Une composante verticale, c'est la composante des projets. Le premier thème, c'est comment assurer une eau supplémentaire aux Libanais dans le cadre du stockage surfacique, de la recharge de la nappe naturelle et artificielle, et aussi dans le cadre de l'utilisation des eaux non conventionnelles. Le second point de la stratégie décennale, c'est travailler sur en fait l'efficacité des réseaux. On sait très bien que les réseaux du Liban fuient à 48%. C'est la moyenne qui a été déclarée par la Banque mondiale. Pour l'irrigation, c'est pareil. Il faut rationaliser donc les techniques d'irrigation en utilisation et les pratiques agricoles en utilisant des technologies telles que le goutte à goutte et l'aspersion afin que les périmètres d'irrigation soient plus larges et que la sécurité alimentaire soit assurée avec un minimum de gaspillage d'eau. Ça, c'est en fait la composante verticale de l'agir. Et la composante horizontale, c'est comment gérer tous ces systèmes-là dans une gouvernance appropriée, telle que le nouveau code de l'eau, telle que les PPP, telle que la sensibilisation des usagers, des jeunes aux bonnes pratiques de l'eau. Les statistiques officielles montrent que la population libanaise actuellement est d'à peu près 5 millions de Libanais. Et s'ajoute à ça 2 millions de réfugiés qui consomment avec les Libanais l'eau libanaise. Que malheureusement, le Liban s'est appuyé sur les forages. Depuis l'indépendance, on n'a pas vu des retenues collinaires et des réservoirs de l'eau surfacique. C'est pour cela que le gaspillage va directement dans la Méditerranée. Donc il est plus judicieux de stocker cette eau dans des retenues appropriées.
L'incurie politique. Le faible usage des eaux non conventionnelles, l'absence de mesures de protection de l'environnement, la pollution, la surexploitation des eaux souterraines, des fuites dans les systèmes de distribution de l'eau, les installations vétustes, les forages à fond perdu qui altèrent, eux, la nappe phréatique, l'incompétence régnante dans la gestion de l'eau due à l'absence de volonté politique et au clientélisme sont autant de facteurs qui contribuent un peu plus tous les jours à creuser l'écart entre l'offre et la demande en eau.
Le Liban était le seul pays à lancer le concept de l'AGIR il y a plus de 20 ans. Le seul pays dans le bassin méditerranéen, je parle des pays du sud-est. La Jordanie nous a suivis, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Nous étions les pionniers à proposer la stratégie de l'AGIR qui a été présentée lors du 3e Conseil mondial de l'eau, qui s'est réuni il y a une vingtaine d'années à Dublin, et que le Liban, dans sa présidence du réseau méditerranéen des organismes de bassin, a relancé tous ces projets de grande envergure. La présidence libanaise a présenté une stratégie méditerranéenne à l'Union pour la Méditerranée, qui est signée par le Liban, par la France, par l'Italie et par l'Espagne. Si le plan de la gestion intégrée des ressources en eau, l'AGIR, et ce plan a eu l'aval de toutes les agences donatrices telles que la Banque mondiale, l'Union européenne, l'UPM, l'AFD, si ce plan n'est pas pris en considération par les responsables politiques, la question est comment pourrions-nous surmonter ce déficit en eau et assurer une gestion durable pour répondre à la demande croissante de la ressource. Il faudrait que les pouvoirs politiques soient conscients que le renforcement de la gestion intégrée des ressources hydrauliques du Liban est essentiel. Elle est essentielle pour atteindre les objectifs que nous avons tracés afin d'assurer cette gestion de la demande pour les 50 ans à venir. Sinon, on tombe dans un déficit hydrique, ce qui est le cas actuellement. Si on calcule la balance hydraulique du pays, actuellement, nous sommes dans un déficit hydraulique virtuel. Pourquoi le terme virtuel? Parce que nous avons une quantité d'eau énorme qui est dilapidée.
Les changements globaux qui vont affecter le bassin méditerranéen toucheront le Liban en premier lieu parce qu'il n'aura pas appliqué les mesures politiques de prévention et d'adaptation qui ont été préconisées par les technocrates en poste.
En conclusion, je pourrais vous dire que la culture de l'eau compte beaucoup sur le rôle de l'éducation. Si l'éducation dans nos écoles sensibilisait les jeunes à la bonne utilisation des ressources hydriques, sensibilisait les universitaires afin de lancer des recherches sur les cours d'eau libanais pour que la flore et la faune se régénèrent de nouveau dans le cadre d'un écosystème qualitatif.
Je plonge inversé. Si tu
Les grandes civilisations de l'histoire se sont développées autour d'une ressource vitale, l'eau. La Tunisie n'échappe pas à cette règle. Oued Majerda, seul cours d'eau pérenne et principale source d'eau du pays, a joué un rôle stratégique dans le développement et la fondation de certaines villes de Chemto et Utique, mais aussi dans une moindre mesure Carthage et Tunis, à proximité de la partie aval de l'Oued. Parmi les nombreuses constructions antiques autour de l'eau, le temple des eaux de Zagouan. L'empereur Adrien, qui est un empereur romain de la dynastie des Antonins, a décidé de ramener l'eau à partir des ressources hydriques des massifs montagneux du Jbel Zagouan au moyen d'un imposant aqueduc, El Hneya, qui véhiculait les eaux vers les citernes de la Malga situées sur les hauteurs de la colline de Carthage. Il s'agit du plus grand complexe du genre jamais réalisé. Construit au début du IIe siècle après Jésus-Christ, ce complexe a depuis marqué le paysage jusqu'à aujourd'hui et a connu une longévité exceptionnelle puisque de nos jours encore, une bonne partie de ses canalisations est toujours fonctionnelle. La Tunisie a su, depuis l'Antiquité, gérer ses ressources en eau, limitées, aléatoires et géographiquement inégalement réparties. Les pénuries conjoncturelles et structurelles sont des réalités anciennes dont la Tunisie a appris à gérer les conséquences néfastes. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi la Tunisie est-elle sous stress hydrique et quelles sont les réponses de l'État? Écoutons ce reportage. Ali Ben Ammar Jlassi est un agriculteur de la région de Mahfoura du gouvernorat de la Manouba. Un coup de branche à la main, Ali taille un amandier.
Je coupe les branches dures, tout ce qui doit être enlevé.
Ali Ben Ammar est issu d'une famille d'agriculteurs. Il nous raconte son quotidien, le quotidien d'une profession pour laquelle il nourrit une passion, malgré tout. Car depuis des années, le quotidien de Ali Ben Ammar et des agriculteurs de la région de la Mahfoura n'est qu'inquiétude et désillusion.
Nous avons hérité ça de père en fils et depuis les années 70, nous nous plaignons du manque d'eau. Cette région est traversée par Oued Majerda, mais n'en profite pas. Les agriculteurs aisés qui ont des terres de 300 ou 400 hectares ont accès à l'eau quand ils le demandent. Mais nous, agriculteurs modestes, on n'a pas l'eau. C'est une question de volonté politique. S'il y avait une volonté, on aurait facilement l'eau, qui existe en abondance ici, sur les quatre côtés de la région. Nous sommes fatigués des promesses non tenues. À chaque fois qu'un responsable nous rend visite, il ne nous fait que des promesses.
La crise en eau est bien là et n'épargne personne. La baisse de la pluviométrie, la chute des réserves dans les barrages, les coupures d'eau potable devenues répétitives et la pénurie d'eau d'irrigation ont contraint les agriculteurs à l'approvisionnement anarchique. Dans la région de la Mahfoura, la crise a contraint les agriculteurs a abandonné la culture maraîchère, exigeant une irrigation intensive à l'instar des tomates, des pommes de terre, des agrumes ou des raisins, et à se diriger vers des productions résistant au manque d'eau comme les oliviers et les amandiers. Cette situation met les agriculteurs de la région en difficulté.
Notre région a soif. Regardez comment nos jeunes passent leur journée. Ils chôment parce qu'il n'y a plus rien à faire dans les champs. Ces amandiers sont irrigués à l'eau de pluie. Si on avait l'eau, cette terre serait un paradis. Nos récoltes seraient abondantes et diversifiées. Et nos jeunes auraient du travail.
Le manque d'eau est une problématique soulevée à de nombreuses reprises, notamment par la société civile. L'association Nomad 08 Erdaïf a mis en place en 2015 un observatoire citoyen et participatif pour signaler les différentes coupures sous alimentation d'eau et mouvements sociaux en relation. Ahmed Tabebi est le responsable de l'Observatoire tunisien de l'eau.
Dès la première année de notre travail, nous avons constaté que le problème d'eau en Tunisie dépasse le problème de coupure d'eau potable. Cette question est beaucoup plus grave. Elle concerne les ressources en eau. Les sources officielles nous disent que la Tunisie est en dessous du seuil de pénurie. C'est vrai, mais le problème est essentiellement dans la gestion des ressources en eau par le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques, ainsi que par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED. C'est aussi un problème de renouvellement de ces ressources, parce que plusieurs régions en Tunisie utilisent les eaux souterraines. Le ministère de l'Agriculture se dirige vers le dessalement comme solution. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution.
L'Observatoire tunisien de l'eau pointe du doigt des lacunes en matière de gouvernance des ressources en eau. Au lieu des stations de dessalement, qui selon eux sont très coûteuses, il propose à l'État de rénover son infrastructure vétuste et de redessiner sa stratégie agricole afin de l'adapter aux défis climatiques.
Le secteur agricole consomme à peu près 80% de nos ressources en eau. L'eau potable, l'industrie et le tourisme en consomment 20%. Il y a là un déséquilibre clair. Alors, si on nous dit que nous sommes sous le seuil de la pénurie hydrique, alors que nous exportons les agrumes et les tomates, cela veut dire que nous sommes en train d'exporter nos ressources en eau. Il est urgent que l'État révise sa stratégie agricole. Ce que nous reprochons au ministère de l'Agriculture, c'est qu'il n'y a pas une stratégie globale. Les stratégies diffèrent d'une année à l'autre et nous restons dépendants des pluies.
Chaque année, la Tunisie perd une partie importante de ses ressources hydrauliques. L'une des principales causes de mauvaise gestion réside, selon plusieurs experts, dans la dégradation et la vétusté des infrastructures de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux. Pour savoir un peu plus sur la réponse de l'État face à cette crise que traverse la Tunisie et avoir une idée globale sur l'état des lieux de nos ressources en eau, nous sommes allés au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Hamad Yahbayeb est le directeur général du Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la Tunisie est dotée d'une mauvaise répartition spatiale et temporelle de la pluviométrie, de telle façon qu'on a beaucoup de pluie au nord de la Tunisie et on a très peu de pluie au sud tunisien. C'est-à-dire que la pluie peut varier entre plus de 1500 mm par an au nord de la Tunisie et moins de 50 mm par an au sud tunisien. Et le problème, c'est que là où on a beaucoup d'eau, on a une faible capacité de stockage. Et là où on a une très faible quantité d'eau, on a une très forte capacité de stockage. Donc il y a un déséquilibre entre tout ce qui est effet climatologique et effet géologique. C'est pour cette raison que la plupart de nos barrages se situent au nord de la Tunisie. Nos ressources en eau en Tunisie, c'est aux alentours de 4,8 milliards de mètres cubes. 2,7 milliards de mètres cubes sont des eaux de surface, qu'on les retrouve plutôt au nord de la Tunisie. Et 2,1 milliards de mètres cubes, ce sont des eaux, des nappes, soit phréatiques, soit profondes. Et comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'eau au nord, et bien sûr il y a très peu d'eau au niveau des côtes, au niveau du sud, c'est pour cette raison qu'on a adopté le transfert de l'eau des zones productrices vers des zones consommatrices. Donc l'eau parcourt à peu près 600 km.
Alors la solution justement, parlez-nous de la stratégie.
La stratégie. Quel est l'objectif? L'objectif, bien sûr, c'est d'assurer une meilleure gestion de l'eau par l'atteinte de l'équilibre entre l'offre et la demande. On ne va pas agir selon l'offre, mais on va agir selon la demande. Donc, il n'y a plus droit de toujours l'eau est offerte, mais il faut donner à la plante ce qu'elle a besoin. Aussi, il faut donner aux citoyens ce qu'elle a besoin. Et on a pensé même à faire un séminaire aux citoyens pour leur dire comment se comporter vis-à-vis d'une pénurie d'eau. D'accord. Et là, ça concerne à la fois les écoliers comme les décideurs.
Et pour terminer, par rapport à l'agriculture, on a été aujourd'hui dans une région où nous avons rencontré des agriculteurs qui se plaignent de la pénurie d'eau dans une région qui est traversée par Oued Mejdra. Quelle est votre réponse?
En principe, ce problème-là doit être résolu à l'échelle régionale. Voilà comment on a travaillé, nous, pour les gens où le canal Mejdra traverse. Donc, on a donné la priorité à l'eau potable. Ensuite, on a fait des réunions avec les commissariats régionaux de développement agricole, les CRDA, et on a donné à chaque région un quota, à peu près 20% de la demande. Et bien sûr, ce quota-là sera distribué aux agriculteurs, bien sûr, en faisant des réunions avec l'Union des agriculteurs et aussi avec les agriculteurs. Et bien sûr, ces quotas attribués pour inciter les gens à utiliser l'eau qui existe. Donc, ce n'est pas la peine quand même de faire d'autres cultures maraîchères ou juste comme ça. Donc, la priorité sera donnée à l'arboriculture.
La priorité est donc donnée à l'eau potable et à l'arboriculture en réponse à la pénurie d'eau que traverse la Tunisie. Les agriculteurs, comme Ali Ben Amar, souhaitant des productions maraîchères, attendent donc que des solutions durables soient prises en faveur de la région pour dépasser cette crise de l'eau. Autour d'un café, ils se rencontrent tous les jours en espérant des jours meilleurs. Après notre reportage sur la question de la rareté de l'eau en Tunisie, une respiration musicale toujours sur la thématique de l'eau.
C'est beau, c'est limpide, ça ramène à la vie. Connais pas le désert, et j'ignore comment l'eau choisit son camp et le sol.
Kantara.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Exterior de Espagne.
Notre prochaine destination, l'Égypte. L'Égypte a toujours fait preuve d'ouverture et de compréhension concernant les intérêts de développement de l'Éthiopie dans la construction du grand barrage de la Renaissance. Mais le pays conserve ses droits historiques sur le partage des eaux du Nil. La construction devrait être réalisée dans un cadre équilibré qui prenne en considération les intérêts des pays en amont comme en aval du fleuve. Dans ce contexte, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont décidé de poursuivre leurs discussions sur le barrage de la Renaissance et de trouver des solutions sur les questions controversées. Pourrait-on dire que le combat sur le Nil pourrait déclencher la guerre de l'eau? Écoutons Dina Abdelmegid de Radio Le Caire.
Sans le fleuve qui l'arrose généreusement, l'Égypte ne serait qu'un immense désert. En quoi ce pays est-il un don du Nil, comme l'a écrit l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ? Le Nil, qui prend sa source dans le lac Tanganyika au Burundi et qui coule sur 6671 km, est le plus long fleuve du monde. Il traverse l'Égypte du sud au nord et franchit un millier de kilomètres entre Assouan et la Méditerranée. Dans ce pays où les pluies sont très rares, il est la seule source importante d'approvisionnement en eau. Il alimente un réseau de canaux qui irriguent les champs. Le Nil était le cœur de la civilisation égyptienne. Si l'Égypte tire sa force du Nil, c'est du fleuve que vient potentiellement sa faiblesse. Située à l'aval, elle dépend des prélèvements réalisés par les autres États africains, du Burundi et de l'Éthiopie jusqu'au Soudan. Depuis 1959, la part de l'Égypte dans les eaux du Nil n'a pas changé. Le traité de partage des eaux du Nil, signé entre le Caire et Khartoum à l'occasion de la construction du haut barrage, attribue à l'Égypte les deux tiers du débit du fleuve, estimé à hauteur d'Assouan, soit 55,5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Avec la reconstruction du barrage de la Renaissance et le trébuchement des négociations avec l'Éthiopie autour du remplissage du réservoir, ce chiffre risque de baisser à nouveau. L'Éthiopie insiste sur une durée de remplissage du barrage ne dépassant pas 5 ans, alors que l'Égypte veut une durée de remplissage entre 7 et 10 ans. L'Égypte craint que la première phase de remplissage du réservoir, si elle devait s'accompagner d'une grave sécheresse dans le Nil Bleu en Éthiopie, n'entraîne une baisse importante du niveau des eaux du haut barrage à Assouan. Un remplissage rapide pourrait priver l'Égypte de plus de 15 milliards de mètres cubes par an d'eau nécessaire à sa population, son agriculture et son industrie. Il faut souligner que le barrage de la Renaissance est construit sur le Nil Bleu, un affluent du Nil qui prend sa source en Éthiopie et qui est à l'origine de plus de 75% des eaux du Nil qui alimentent l'Égypte. Le manque d'approvisionnement en eau est une menace pour la sécurité régionale et pour l'Égypte, puisque cela pourrait accélérer la migration des agriculteurs en destination des villes ou même en dehors d'Égypte. Face à ces défis, une meilleure gestion des ressources hydriques se révèle nécessaire, mais aussi la recherche d'alternatives. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré en janvier 2018 « Nous ne pouvons pas permettre un problème d'eau en Égypte. L'État ne tente pas seulement de préserver sa part d'eau, mais aussi de maximiser l'exploitation de chaque goutte d'eau. Dans ce contexte, l'État a adopté un plan ambitieux basé sur plusieurs axes, comme le dessalement de l'eau de mer, le traitement des eaux usées du drainage agricole et sanitaire, l'expansion de l'agriculture en serre et la rationalisation de l'eau potable. Selon les chiffres du gouvernement, l'Égypte compte à 88% sur le Nil pour l'eau potable et à 11,7% sur les eaux souterraines, raison pour laquelle le plan de l'État vise à augmenter le dessalement de l'eau de mer pour atteindre 1,7 million de mètres cubes. C'est dans ce contexte qu'a été inaugurée l'année dernière à Hurghada la plus grande station de dessalement au Moyen-Orient, nommée El Yusr. D'autre part, le ministère de la Population construit en ce moment 52 stations de traitement secondaire de l'eau du drainage sanitaire au Nord-Égypte. Ces eaux traitées sont essentiellement destinées à l'agriculture. Le gouvernement égyptien a depuis juin 2016 donné le coup d'envoi à un projet colossal d'agriculture en serre. Et enfin, pour réduire les pertes dans l'eau potable à travers l'expansion dans l'utilisation des économiseurs d'eau a permis d'économiser 45% de l'eau. L'eau comme question de sécurité nationale. En 1979, le président Sadat déclare que le seul facteur qui pourrait conduire à nouveau l'Égypte à entrer en guerre est l'eau. L'Égypte a toujours fait preuve d'ouverture et de compréhension à l'égard de l'Éthiopie dans la construction du barrage. Mais Elle conserve ses droits historiques sur le partage des eaux du Nil, dans un cadre équilibré qui prenne en considération les intérêts des pays en amont comme en aval du fleuve.
Et nous ne pouvons pas parler du Nil sans écouter une chanson sur ce fameux fleuve. La chanson nous est proposée par Dina Abdelmigid. Elle est signée Shirin Abdelwahab. Une chanson sur le Nil proposée par Dina Abdelmegid de Radio Le Caire. L'Égypte est un don du Nil, disait Hérodote. Le Nil est avec le fleuve Amazone le plus long fleuve du monde. Il est issu de la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu. C'est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. Il joua un rôle très important dans l'Égypte antique du point de vue économique, social, agricole et religieux. Fleuve nourricier d'un grand peuple, il fut divinisé sous le nom d'Api, personnifiant la crue du Nil dans la mythologie égyptienne. La crue du Nil qui avait lieu chaque été et qui apportait le limon noir, permettant la culture de ses rives, est restée longtemps un phénomène inexpliqué. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kemet, qui veut dire la terre noire. terminons notre tour de la Méditerranée au Maroc. Le Maroc dispose de 148 barrages, 104 grands barrages et 67 barrages ou lacs collinaires. À côté de ces infrastructures modernes, l'irrigation traditionnelle est toujours pratiquée dans certaines régions oasiennes. L'eau est conduite vers les cultures via des saria ou des ratara. L'irrigation traditionnelle est ancrée dans une culture de solidarité. Nadira Boulkhoutout de la chaîne Intermaroc s'est rendue à Gourama, au Moyen Atlas, où l'irrigation est transmise en héritage.
Le système d'irrigation diffère d'une région à une autre. Aux côtés des grands barrages, certaines régions pratiquent encore un système traditionnel appelé en amazigh tiram, puisqu'on est ici à Mellaha, une région du sud-est du Maroc, une région à dominante amazigh. Ce système d'irrigation consiste à se départager l'eau de façon démocratique et à tour de rôle entre les populations. Pour une agriculture traditionnelle, en général sous forme de petits champs d'olives et d'arbres fruitiers. Aziz Mzen, acteur associatif, va nous rapprocher de ce système traditionnel d'irrigation et comment est-ce qu'il s'opère jusqu'à nos jours.
Bien, les habitants de cette région, ils utilisent des choses traditionnelles. Une déviation traditionnelle, pas de barrage, pas de, seulement les gens font une petite digue comme ça pour dévier l'eau pendant la saison d'hiver. Mais en été, il y a un problème du manque d'eau. L'eau se trouve dans un réseau ou bien dans les canaux d'irrigation traditionnels. Et si on n'utilise pas le système moderne d'irrigation avec goutte à goutte.
Comment les gens se mettent d'accord pour se départager l'eau chaque jour? Alors chacun dispose d'un certain nombre d'heures pour arroser son champ qui est sous forme d'oasis en général.
C'est une pratique depuis des siècles. Depuis des siècles, il y a des gens qui ont beaucoup de champs. C'est pas beaucoup de champs, mais beaucoup de séances d'irrigation. Et si l'irrigation se fait par heure ou bien par 10 minutes, on a des gens qui ont par exemple 15 minutes d'irrigation pendant 26 jours. Il y a des gens qui ont 1 heure ou bien 3 heures ou bien il y a des gens qui ont plus de 40 heures. Ça dépend.
Ça dépend de quoi justement?
Alors des gens, ceux qui ont, je parle du passé, ceux qui ont de l'argent, ils ont acheté chez les pauvres les heures d'eau. Quand quelqu'un par exemple a besoin d'argent, il vend sa part d'eau et même les champs, c'est-à-dire beaucoup de séances d'eau et des champs d'agriculture comme ça.
Ils ont perpétué cette pratique, les gens qui ont acheté il y a très longtemps leur part d'eau, ou est-ce que ça a changé?
Il a acheté, ça y est. Même s'il n'y a pas d'écriture comme ça, ça y est, il a acheté cette séance d'eau. Donc, pas de problème. Il y a plus que ça. Il y a le problème d'héritage. Par exemple, une personne, par exemple, il a par exemple 3 heures d'eau pendant, je dis ça pendant 26 jours. 3 heures d'eau pendant 26 jours. Parce que c'est à tour de rôle. Alors, quand cet homme, ses enfants partagent son héritage, peut-être il a par exemple, il a 5 enfants, on divise 3 heures par 5. 3 heures, c'est 300 minutes par 5, c'est presque même pas une heure pour chacun. Alors c'est le problème d'héritage. Le système traditionnel n'est pas praticable parce qu'il n'y a qu'un gaspillage d'eau. Alors on demande un système moderne, par exemple des canaux seront faits en plastique, des canaux modernes en plastique et le système de goutte à goutte.
Cantara, une autre idée de la Méditerranée.
Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro réalisé par Maya Dassili de RTCI avec la précieuse collaboration technique de Wafa Bouzaïda. Nous terminons avec une chanson de l'artiste tunisien Lotfi Bouchner, une chanson sur l'eau interprétée par des enfants parce que l'éducation et la sensibilisation des enfants aux valeurs liées à l'eau, c'est très important. Anna Maya est le titre de la chanson, mais je vous rappelle avant de nous quitter que Cantara est le fruit d'une large coopération France Bleu RCFM, Radio Exterior d'Espagne, la chaîne Inter Maroc, RTCI, Radio Le Caire, Radio Liban et Radio Palestine Internationale. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2020. Toute l'équipe de Cantara se joint à moi d'ailleurs pour vous présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle vous apporte le bonheur, la santé, la paix et la sérénité. On se retrouve donc la semaine prochaine et n'oubliez pas de jeter un œil sur notre page Facebook pour réécouter ce numéro et les numéros précédents. À très bientôt.